Merci beaucoup, Stan. Vous m'entendez? Oui, je pense que... merci de tes gentils mots et de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de revenir au Collège de France. Donc j'ai préparé des diapos en anglais pour gagner du temps et pour éviter trop de fautes d'orthographe, mais je parlerai en français. Voilà donc la structure de la présentation. Je voudrais commencer en abordant une question qui est vraiment une question fondatrice pour les études modernes de linguistique formelle, c'est-à-dire la question de la créativité syntaxique que je voudrais illustrer. Et je voudrais aussi illustrer les ingrédients formels qui sont utilisés dans les modèles récents pour essayer d'aborder cette question. Ces ingrédients formels créent des représentations pour les phrases d'une langue qui sont hiérarchiques dans un sens profond. Donc je voudrais illustrer l'importance des relations hiérarchiques par rapport aux relations qui sont immédiatement données, les relations linéaires, de précédence linéaire entre les éléments d'une phrase. Ces structures hiérarchiques sont des objets complexes. Je voudrais donc illustrer un programme de recherche qui s'intitule « La cartographie des structures syntaxiques » qui, en quelque sens, essaye de rendre justice de la complexité des objets syntaxiques, tout simplement en dessinant des cartes structurelles qu'on verra ensemble, qui, en quelque sorte, reproduisent et représentent la complexité des objets syntaxiques. Une fois qu'on a une manière précise d'exprimer cette complexité, il y a des questions d'explication qui se posent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les langues naturelles ont de tels objets complets ? Est-ce qu'on peut, en quelque sorte, mettre en relation la complexité des représentations syntaxiques avec des principes simples, des principes simples à la base, plausiblement, du fonctionnement de la syntaxe des langues naturelles. Et on voudrait, dans cet effort, exprimer la différence fondamentale et centrale pour toute étude comparative en linguistique entre l'invariance et la variation. C'est-à-dire qu'il y a des propriétés qui sont invariantes, qui restent les mêmes à travers les langues du monde, et les propriétés qui varient. Nous voulons pouvoir exprimer de manière adéquate ces deux aspects. Et je voudrais illustrer tout ça par l'étude d'un cas, par une série de propriétés des structures topicales et focales qui mettent en jeu ce que les linguistes appellent la périphérie gauche de la phrase, c'est-à-dire la structure initiale de chaque phrase dans une langue naturelle. Voilà donc une créativité syntaxique. Quand nous parlons, nous sommes constamment confrontés à des objets nouveaux. Il est très probable que vous n'aurez pas entendu dans votre expérience précédente avec le français exactement la phrase que je suis en train de prononcer en ce moment. Et tous nos échanges linguistiques se font de cette manière, se font par des objets nouveaux. Néanmoins, nous trouvons ces objets constamment nouveaux, que nous pouvons aussi produire à tout instant, nous les trouvons familiers. Il y a quelque chose qui les rend familiers, qui nous permet d'utiliser ces objets, par exemple, pour construire un discours cohérent. Alors, comment c'est possible? Quelle est la nature de cette capacité? Une autre manière de voir les choses distinctes mais similaires, c'est d'observer que nos capacités syntaxiques sont illimitées. Il n'y a pas un objet qui correspond à la phrase la plus longue du français, fondamentalement. Alors ça, c'est un vieux problème, un problème qui avait été discuté par Descartes. Galilée en a parlé dans son dialogue. Mais le problème de la créativité syntaxique au sens moderne a été abordé pour la première fois de manière précise dans les premiers travaux de grammaire générative, dans les années 50. La proposition liée au travail de Chomsky a été la suivante. Évidemment, le fait de connaître une langue n'implique pas simplement la mémorisation de morceaux, la mémorisation de structures. Connaître une langue veut dire posséder une sorte de machine computationnelle, une machine qui est capable de calculer des structures, en particulier des structures nouvelles. Et cette machine doit consister de deux types d'entités. Il y aura des inventaires, donc des listes de choses que nous aurons mémorisées, des mots, pas l'inventaire principal, et le lexique, évidemment. Et il y aura des procédures computationnelles, des manières de mettre ensemble les mots et les autres ingrédients de base de telle façon à former des entités d'ordre supérieur, des syntagmes, puis des phrases. Et crucialement, ce mécanisme doit être récursif, c'est-à-dire doit avoir la capacité de pouvoir toujours se réappliquer sur son propre résultat. La récursivité est l'ingrédient fondamental qui caractérise l'aspect illimité de nos capacités linguistiques. Est-ce qu'il y a des alternatives à ce type d'approche computationnelle? Est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, que tout simplement on mémorise des séquences, on mémorise des fragments de phrases qu'on entend, on les garde quelque part en mémoire, et puis il y a un système efficace pour reprendre ces fragments? Ben non, évidemment, une telle manière de voir les choses ne traiterait pas précisément la créativité, le fait que nous pouvons constamment avoir affaire à des entités nouvelles. Est-ce qu'on pourrait penser que ce qui nous permet de concevoir des entités nouvelles par rapport à ce qui a été mémorisé est fonction d'une capacité générale de généralisation analogique? Donc nous entendons des choses et nous utilisons une capacité générale d'analogie, de généralisation analogique par rapport à ce que nous connaissons. Ben, le problème avec cette idée, qui est très à la mode, hein, la mode de la notion est soumise à des fluctuations, maintenant on en parle beaucoup, à mon avis, c'est une idée qui est beaucoup trop faible et insuffisamment structurée pour rendre compte de ce que nous observons. C'est-à-dire le point empirique important est précisément pourquoi certaines généralisations analogiques concevables sont en effet faites et admises par tous les locuteurs, tandis que d'autres généralisations analogiques aussi concevables a priori ne sont jamais prises en considération par l'apprenant. Donc nous devons opérer cette distinction et ceci suggère qu'il faut une notion beaucoup plus spécifique que la simple idée d'analogie. Alors, j'ai dit qu'il faut admettre des inventaires et des computations. Il y a eu dans le développement des idées de la grammaire générative des développements de notions. Donc par rapport aux inventaires, il y a eu un changement d'emphase important du lexique de contenu, donc les nombres, les verbes, les adjectifs, les éléments qui ont un contenu descriptif, au lexique fonctionnel, constitué de petits mots comme les articles, par exemple, les auxiliaires, les complémentaires, les marques de temps et d'aspect. Alors, pourquoi est-ce que ces éléments fonctionnels sont si importants? Ben, d'un côté, les éléments fonctionnels créent des squelettes ou des échafaudages structuraux, si vous voulez, configuration phrasale, donc créent des squelettes qui sont très complexes et très riches. Donc à chaque élément lexical, on associe toute une série d'éléments fonctionnels, comme on verra, créant des structures complexes qui sont justement étudiées dans les études cartographiques. Deuxièmement, on peut dire que les éléments fonctionnels sont les éléments qui mettent en action les actions syntaxiques fondamentales, et aussi les éléments fonctionnels, le lexique fonctionnel est le dépôt où on spécifie les paramètres fondamentaux de variation entre les langues. Donc il y a ce projet important de caractériser toute la variation syntaxique en termes de propriétés des éléments fonctionnels, de petits mots que j'ai cités. En ce qui concerne les computations élémentaires, il faut que tout système computationnel qui traite des langues humaines soit capable d'exprimer deux types de choses. D'abord, construire de structures, donc mettre ensemble des mots pour former des structures plus larges. Et deuxièmement, exprimer des dépendances. Typiquement, ce qu'on observe est que dans une structure syntaxique, les propriétés d'une position dépendent des propriétés d'une autre position qui peut être à distance. Il faut que ces propriétés soient traitées et exprimées. En ce qui concerne les développements récents concernant les computations, il y a eu ici aussi un déplacement d'emphase d'une vision très concrète. Quand j'étais étudiant ici il y a 40 ans, il y avait des règles formelles pour des entités qui correspondaient aux constructions, fondamentalement, constructions de grammaire traditionnelles. Donc, comme il y a des constructions telles que la phrase relative, la question, le passif, etc., il y avait des règles formelles pour former une relative, une question, etc. Un développement important qui a eu lieu au cours des décennies, ça a été de faire un pas vers l'abstraction et identifier des ingrédients plus fins. Les constructions existent. Parfois, on dit, en grammaire générative, que les constructions sont des entités éphémères qui n'existent pas. En effet, je pense que ce n'est pas vrai. C'est des entités réelles, mais c'est des entités moléculaires, pas atomiques. Donc, elles sont constituées de quelque chose de beaucoup plus fin, des opérations beaucoup plus simples. Je vous ai donné une petite liste et je vais illustrer certaines de ces opérations. Merge, en particulier, l'opération qui met ensemble des éléments. Donc, on peut déconstruire, pour ainsi dire, les constructions en leur constituant les plus fins. Voilà donc la règle qui a été identifiée après quelques décennies de discussions comme le mécanisme récursif fondamental à la base des langues humaines. Cette opération, appelée en anglais merge, on traduit parfois fusion. Mais je pense que la traduction n'est pas tout à fait exacte en français, parce que ce qui caractérise merge est que les éléments qui sont soumis à l'opération gardent leur spécificité entière. Donc peut-être on peut mieux parler de combinaison. Mais pour éviter tout problème de traduction, je continue à utiliser le terme de merge. D'ailleurs, j'ai vu que Stan aussi l'utilisait dans ses diapos. Donc l'opération merge dit simplement la chose suivante. Prends deux éléments, par exemple deux mots du lexique, mets-les ensemble et forme un troisième élément, comme c'est indiqué dans ce petit schéma. Et ce troisième élément aura une certaine étiquette qui sera à son tour ou bien A ou bien B. Donc l'un des deux éléments projette et assigne l'étiquette à l'ensemble de la structure. Et crucialement, cette opération est récursive. C'est-à-dire, une fois que j'ai formé C par le merger de A et de B, je peux prendre un autre élément D, par exemple, et faire la même opération avec la structure ainsi créée, et ainsi de suite indéfiniment. Donc on peut, de cette manière, engendrer de structures d'une complexité indéfinie. Ces structures arborescentes que j'utiliserai aujourd'hui ne font que recapituler ce qui s'est passé avec les applications successives de merge. Donc on commence en prenant meet Bill, on forme un constituant verbal, puis on peut faire merge avec un autre mot, et ainsi de suite, et créer de cette manière une structure d'une complexité indéfinie. En ce qui concerne les dépendances, une dépendance importante et centrale est celle qui est appelée parfois mouvement, c'est-à-dire une dépendance entre un élément prononcé et un élément nul, un trou, pour ainsi dire, dans la phrase. Donc, prenez des phrases en anglais. Bon, j'utiliserai des exemples anglais, mais vous pourrez immédiatement les traduire dans votre langue maternelle. Donc, which book did John read? Pour interpréter cette phrase, il faut comprendre que which book correspond, en quelque sens, à l'objet du verbe read, même s'il est prononcé dans une position tout à fait différente. Et cette relation entre une position initiale et une position non prononcée peut se faire à distance. Par exemple, vous avez un B, même chose en français, évidemment. Quel livre est-ce que tu penses que Jean a lu, par exemple? Si vous voulez comprendre cette phrase, vous devez mettre en relation livre avec le verbe lire, qui peut être à une distance indéfinie. Alors, dans les modèles traditionnels de grammaire générative, on traitait la construction de structures et la formation de configuration de ce type par deux types de règles distinctes. Par exemple, des règles de réécriture pour engendrer les structures, et puis il y avait des transformations de mouvements qui prenaient des éléments et qui les déplaçaient à d'autres positions. Ce qui a été observé est que cette façon de voir les choses par deux systèmes de règles distinctes n'exprimait pas le fait que le mouvement est structure preserving, est conservateur de structures, en ce sens précis que les structures créées par le mouvement ont des caractéristiques qui sont tout à fait analogues aux caractéristiques qui sont formées par les mécanismes fondamentaux de constitution de la structure. Donc c'était un peu surprenant que deux systèmes de règles distinctes auraient dû converger à déterminer exactement les mêmes structures. Maintenant, en utilisant Merge, on peut, en partie au moins, unifier la constitution des structures et le mouvement. Ici, vous avez un exemple de merge. Donc, imaginez d'avoir formé dans deux espaces de travail deux structures comme celle en rouge de Boys et celle en vert Matt de Girls. Et ensuite, une opération de merge peut prendre ces deux entités et former une structure unique, une phrase comme de Boys Matt de Girls. Cette application de merge, on l'appelle external merge, donc merge extérieur, parce qu'on prend deux entités qui sont extérieures l'une par rapport à l'autre. Mais on peut aussi envisager un autre type d'opération où l'opération de merge se fait entre quelque chose qui est à l'intérieur d'une structure plus large et toute la structure. Donc imaginez une structure de départ comme 3, John read which book, et vous prenez ici simplement which book, qui fait déjà partie de la structure, et faites l'opération de merge par rapport à toute la structure, en obtenant une configuration comme celle de droite. Donc, which book John read, which book. Ici, il y aura une autre occurrence de la même entité, ce qu'on appelle la trace du mouvement dans ce cas, qui est typiquement non prononcée, quoique dans certaines situations, elle peut être prononcée. Donc, on construit une question, par exemple, avec quelques modifications ultérieures, on obtiendra which book did John read, par exemple, de cette manière, par une application supplémentaire de merge. En ce cas, on parle de merge interne parce qu'on prend l'un des deux éléments de l'intérieur de l'autre. Mais l'opération formelle est exactement la même. De cette manière, on traite le caractère préservateur ou conservateur de structure. Le mouvement est conservateur de structure parce qu'il est déterminé par le même mécanisme, fondamentalement. Donc, il n'y a pas d'alternative, essentiellement. Voilà, je continuerai à parler de mouvement, quoiqu'il n'y a pas exactement de mouvement dans ce système, n'est-ce pas ? Il y a simplement la création d'une dépendance à distance, mais la métaphore du mouvement est très puissante, donc on n'arrive pas à s'en libérer complètement. Donc je parlerai de mouvement. Voilà, je voudrais dire quelques mots sur la nature hiérarchique de ces représentations. Donc, ce qu'on obtient, c'est une séquence linéaire de mots, mais cette séquence linéaire correspond à une articulation hiérarchique précise qui est exprimée par les structures arborescentes qu'on a vues. Une manière de voir le rôle crucial, essentiel de la hiérarchie par rapport au simple ordre linéaire est en regardant le fonctionnement de la théorie de la localité. La localité nous dit que certaines opérations ne peuvent pas franchir certaines configurations. Disons, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Par exemple, imaginez de vouloir former une interrogative à partir d'une phrase déclarative. On peut regarder le français ici directement. Je pense que Jean est parti à 5 heures. Vous pouvez former une question sur l'heure du départ de Jean, former quelque chose comme quand est-ce que tu penses que Jean est parti, par exemple. Mais à partir d'autres configurations, on ne peut pas faire la même opération. Prenez le cas d'une question indirecte. Je me demande qui est parti à 5 heures. Ici, si vous essayez de former une question principale sur l'heure du départ, vous obtenez une structure en français comme « Quand est-ce que tu te demandes qui est parti ?» ou en anglais « When do you wonder who left ?» qui est bizarre. Hein, en quelque sorte, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas avec cette sorte de représentation. Donc, nous avons ici une violation d'un principe de localité, de minimalité, qui dit essentiellement qu'on ne peut pas faire bouger un élément en traversant un élément du même type. On voit ça mieux. Donc, à partir de notre structure de base, vous essayez de sortir un élément interrogatif d'une question indirecte, et l'élément interrogatif en question est, dans son parcours, traverse un autre élément interrogatif. Et c'est ça qui cloche dans cette structure. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'observer ici que la notion d'intervention qui est en jeu est en effet sensible à la hiérarchie. Donc, ce n'est pas une notion linéaire, mais hiérarchique. Pourquoi ? Parce que si vous avez une phrase un tout petit peu plus complexe comme 5, the uncertainty about who won dissolved at 5, et vous essayez de former une question sur l'heure à laquelle l'incertitude a disparu, vous obtenez une phrase qui est tout à fait possible, comme 6. When did the uncertainty about who won dissolve? Ça va très bien, c'est un peu compliqué, mais vous voyez en particulier que le fait qu'un élément comme who intervient linéairement dans ce parcours n'a aucune influence sur la bonne formation de la structure. Et ici, l'intervention est purement linéaire en termes d'ordre de mots, tandis que là, l'intervention est de nature hiérarchique. Il y a une notion formelle extrêmement importante, qui est la notion de sécommande, qui régit un peu tout le fonctionnement formel de langue naturelle. La notion de sécommande est la relation entre un élément, alpha ici, et un élément qui se trouve à l'intérieur du nœud qui a été soumis à merge avec alpha. Donc alpha est mis ensemble à gamma, et puis tout ce qui est contenu dans gamma, par exemple bêta ici, et c'est commandé par alpha. C'est commande, c'est une notion technique qui, en quelque sorte, désigne les possibilités d'activité d'un nœud. Un nœud est actif par rapport à tout ce qu'il s'y commande, c'est commande essentiellement. Avec cette notion, on peut voir tout de suite la différence entre deux structures qu'on a vues avant. La structure qui ne va pas, when you wonder who left, ici, who intervient entre la trace de quand et son antécédent, en termes de sécommande, parce qu'il sécommande la trace, mais il ne sécommande pas l'antécédent. Donc, intervention en termes hiérarchiques. Tandis que dans le cas de la structure plus complexe, « When did the uncertainty about who won dissolve ?», vous voyez que « who » intervient linéairement entre ces deux positions, mais pas hiérarchiquement, parce qu'il est, en quelque sorte, profondément enchâssé à l'intérieur de ce syntagme nominal complexe. Et donc, il n'a pas la capacité d'être actif, d'être vu par le système de localité. Et donc la structure est bonne, la structure est possible. Voilà, donc on arrive à la cartographie des structures syntaxiques. L'importance de structure a été soulignée dès le début de la grammaire générative. Le premier livre de Chomsky s'intitulait Syntactic Structures, justement. Mais au fur et à mesure, dès qu'on a continué à regarder ces objets de nature formelle, on s'est rendu compte que les structures syntaxiques sont des objets très complexes. Et la cartographie de structures syntaxiques est donc la ligne de recherche qui essaye, en quelque sorte, d'exprimer la complexité de la structure en mettant en lumière l'articulation interne, les détails fins des articulations syntaxiques. Donc, ce qu'on fait dans le travail cartographique, c'est d'écrire des maps, des cartes structurelles aussi précises que possible des différentes zones de la phrase. Alors, prenons une phrase selon un système de représentation plus traditionnel, une phrase subordonnée introduite par un verbe comme « penser », par exemple « I think that John will meet Mary », on peut identifier dans la phrase trois couches structurelles, la couche du complémenteur, ou CP, introduit par des éléments comme « que », par exemple, en français, ce qui introduit une phrase subordonnée. Puis il y a une couche flexionnelle, IP, où on exprime des propriétés comme le temps, par exemple, et d'autres propriétés, la modalité, la voix, et ainsi de suite. Et puis une troisième couche, le syntagme verbal, où on exprime des propriétés comme les rôles thématiques, qui fait quoi à qui, fondamentalement, dans la structure. Or, si on adopte un loop cartographique, chacune de ces zones correspond à une configuration beaucoup plus riche, Voilà donc la structure qu'assume le IP, donc la partie interne de la phrase, selon l'analyse cartographique de 5. Donc vous voyez une structure beaucoup plus complexe, avec une série d'éléments qui expriment les propriétés de mode, de modalité, d'aspect, de temps, de voix. Et vous remarquez que la géométrie de base est toujours la même, il y a toujours des têtes qui se combinent avec des dépendants, mais la structure est beaucoup plus riche parce qu'il y a un nombre beaucoup plus grand de têtes, d'éléments fonctionnels qui rentrent dans cette configuration. Même chose pour le splitting, donc pour la subdivision du CP, donc de la partie initiale de la phrase dans mon propre travail. Ici, vous voyez, la structure cartographique est un peu moins dense, mais néanmoins beaucoup plus riche par rapport à une représentation traditionnelle avec des têtes qui expriment les propriétés comme la force illocutive, le caractère fini, et puis il y a toute une série de positions qui contiennent des opérateurs, par exemple, ou des entités qui expriment les propriétés utilisables dans l'articulation discursive, comme le topic, le focus, et ainsi de suite. Voilà, ici c'est un peu dense, c'est juste pour donner une idée de l'impact à travers les langues des études cartographiques. Alors, on a commencé ces études par l'analyse de certaines zones de l'arbre syntaxique dans les langues romanes et germaniques, mais ensuite, cette façon de voir les choses a montré son attitude à être généralisée à d'autres langues. Il y a beaucoup de travail important, par exemple, sur les langues finno-ugriques, beaucoup de travail que je reprendrai maintenant sur les langues africaines, beaucoup de travail récent et moins récent, par exemple, sur le chinois, sur le japonais, sur les langues amérindiennes, sur la langue australienne, et aussi beaucoup de travail sur la langue créole et récemment sur la langue des signes. On peut parler de cartographie, évidemment, aussi dans le cas de la langue des signes. Il y a eu un impact aussi très important sur la dialectologie romane et germanique, qui a été un peu refondée par cette manière de voir les choses, etc. Il y a une série de synthèses, comme l'article que j'ai écrit avec Guglielmo Cinque, qui a été publié il y a un an dans la Annual Review of Linguistics. Ici, il y a un site de notre projet IRC, auquel Stan se référait, avec beaucoup d'autres informations bibliographiques. Voilà, donc, regardons un peu quel type de travail on fait à partir de ces structures. Par exemple, on regarde le système du complémentaire. Traditionnellement, les phrases peuvent être introduites par des éléments comme « que » en italien ou « que » en français, par « de », « j'ai décidé de partir », par exemple, en français, par « si », « je ne sais pas si je partirai », par exemple. Et toutes ces particules étaient analysées comme des complémentaires occupant la même position dans les analyses traditionnelles. Mais si on considère la position de ces éléments par rapport à d'autres éléments, on se rend compte que la structure traditionnelle n'est pas suffisamment riche. Parce que, par exemple, si on prend un topic, un élément comme « ton livre, dans ton livre, je le lirai demain », ce genre de structure, on voit que les différents types de complémentaires ont une position différente. Par exemple, en italien, « que » nécessairement, ou correspondant au français « que », nécessairement précède le topic, dit l'introducteur de structure infinitive, suit nécessairement le topic, et un élément comme « si » se trouve dans une position intermédiaire, donc il peut être et précédé et suivi par un topic dans la même structure. Ce qui nous amène à une petite carte de la configuration de ce type. Donc il y a un élément qui détermine le début, pour ainsi dire, de cette configuration périphérique, qui correspond à la position de « que ». Il y a une position la plus basse qui termine cette structure, une position intermédiaire utilisée par l'autre type de complémentaire qu'on utilise, par exemple, dans les questions indirectes. Si on regarde dans d'autres langues, on voit que cet ordre qui est établi abstraitement dans une langue comme l'italien, on peut le voir concrètement dans des exemples spécifiques. Par exemple, en espagnol, il y a cette construction appelée « question reportée » où on voit la concurrence de « que » et « si » dans la même structure, séparée par un topic. Donc, ce qu'on ne peut jamais voir ensemble en italien, on le voit en même temps dans la même configuration en espagnol. Et beaucoup de travail sur le japonais, en particulier lié au travail de Mamoru Saito, a montré que cette séquence que si dit de l'italien est reproduite en japonais, mais en position finale de phrase, étant donné que le japonais est une langue à tête finale, donc ces éléments se trouvaient après la phrase, non pas au début de la phrase, comme dans les langues romanes, par exemple, en reproduisant l'ordre, mais en effet, en produisant une sorte d'image miroir de cet ordre, donc « to » qui correspond à « que » est le dernier, « ka » qui correspond à « si » est intermédiaire, et « non » qui correspond à « di » est en première position. Ceci est simplement dû au fait que si on considère les cartes de ces structures dans la langue romane et en japonais, on se rend compte que l'ordre hiérarchique est le même, exactement le même. Ce qui varie est l'ordre linéaire. Donc en japonais, on a l'image miroir de l'ordre que vous avez dans les langues romanes, tout simplement en conséquence du fait que le système de tête se trouve à la fin et non pas au début du constituant dans ce type de langue. Donc encore une fois, ce qui compte, ce qui est universel, est l'ordre hiérarchique. L'ordre linéaire dépend d'autres propriétés. Par exemple, cette paramétrisation concernant l'ordre tête-complément. Voilà, donc parlons un peu de l'approche critériale à la sémantique de portée et discours. Ici, j'ai donné l'illustration d'une série de constructions qui mettent en jeu la périphérie initiale de la phrase. Hein, donc, par exemple, des questions, des structures topiques commentaires, en anglais, « This book you should read tomorrow ». Là aussi, il y a un élément qui a été déplacé en première position, et puis des structures focales. On peut focaliser, par exemple, pour corriger quelque chose qui a été dit par quelqu'un d'autre, en utilisant une structure comme un « c'est ».« This book you should read, not that one », par exemple. Alors, selon l'approche critériale, qui fait partie un peu de ces études cartographiques que j'ai présentées, ces structures sont marquées formellement par un ensemble de têtes qui ne sont pas prononcés dans ces langues, mais qui ont un rôle essentiel dans l'organisation de ces configurations. Cette approche structurelle est, en quelque sorte, justifiée par l'existence de beaucoup de langues où on entend effectivement ces éléments prononcés à côté des éléments qui ont été antéposés. Donc, par exemple, dans certaines variétés du néerlandais, vous avez des structures comme élément interrogatif suivi de ce marqueur de question. Et dans beaucoup de langues du monde, par exemple dans la langue africaine Gungbe, parlée au Bénin, il y a des marqueurs explicites de topic et de focus. Donc vous avez quelque chose comme « j'ai entendu que le serpent, marqueur de topic, Kofi l'a tué », quelque chose comme ça. Ou bien « j'ai entendu que le serpent, marqueur de focus, Kofi l'a tué », etc. Donc ces propriétés sont typiquement marquées par des marqueurs réalisés. Donc on peut faire un raisonnement d'uniformité, ce qu'on fait d'habitude dans ces situations, et faire l'hypothèse que les langues diffèrent minimalement. Par exemple, ici, toutes les langues, on peut faire l'hypothèse, utilisent un système de tête de ce genre, sauf que ce système est prononcé dans certaines langues, comme ici, il n'est pas prononcé dans des langues comme l'anglais, par exemple, ou les langues romanes. Voilà, ces têtes critériales ont une double fonction. Ici, c'est le petit schéma d'organisation de la grammaire. Il y a d'un côté le lexique, où nous choisissons les mots. Ensuite, la syntaxe est constituée fondamentalement par merge, donc on met ensemble les mots. Et ce système produit des représentations d'interface avec les sons, donc des formes phonétiques, qui donnent des instructions pour la prononciation et pour décodage de structures qu'on entend, et des formes logiques, donc des représentations d'interface qui expriment certaines propriétés du sens, qui sont en interaction avec des systèmes de pensée, pour ainsi dire. Évidemment, quand on parle de formes phonétiques, il faut caractériser cette notion de manière suffisamment abstraite, de telle façon qu'elle soit compatible avec les langues des signes. On sait qu'on peut utiliser d'autres moyens pour l'externalisation des propriétés syntaxiques. Donc, les têtes qu'on a vues au niveau syntaxique, détermine le mouvement. Donc il y a quelque chose qui se déplace à la position initiale sur la base de la traction déterminée par ces têtes. Et puis, aux deux niveaux de l'interface, ces têtes déclenchent des propriétés interprétatives qui disent comment utiliser ces configurations dans un contexte discursif, par exemple, et du côté de l'interface avec les sons, nous disent quel contour intonatif approprié assigner à de telles configurations. Voilà, donc on parle ici de syntacticisation de certaines propriétés de la sémantique de portée discours. Syntacticisation parce que l'idée est que la syntaxe est extrêmement user-friendly, pour ainsi dire, par rapport au système d'interface. Elle produit des configurations qui sont immédiatement interprétables de manière très transparente par les systèmes d'interface. Donc, par exemple, si nous avons une structure topicale, la tête topicale, d'un côté, attire un élément de l'intérieur de la phrase. Ça correspond au français « ce livre, on devrait le lire demain », par exemple. Donc, attire en syntaxe le mouvement. Et puis, au niveau de l'interface avec la forme logique, détermine l'interprétation, on interprète mon spécificateur, l'élément qui me précède immédiatement, comme topique, et interprète mon complément, ce qui me suit immédiatement, comme le commentaire qui a été fait à propos de ce topique. Même chose pour le focus, par exemple. Ici, vous avez une structure focale, un focus correctif. Questo libro dovremmo leggere, non quell'altro. Donc, c'est ce livre qu'on devrait lire, non pas cet autre. Donc, même chose, en syntaxe, attraction du mouvement vers la périphérie gauche, et au niveau des interfaces, une caractérisation des propriétés interprétatives. Du côté de l'intonation, les structures topicales, les structures focales, ont des contours assez différents, très nettement distinguables. Ça, c'est une structure topicale. Vous voyez qu'il y a une certaine proéminence dans le topic, mais le reste de la phrase, le commentaire, continue à avoir ses propres proéminences. Ça, c'est assez différent par rapport à la configuration qui est associée dans des langues comme l'italien aux structures focales. Donc voilà une structure à focus correctif. Quelqu'un dit « si j'ai bien compris, ils sont allés aux îles Vierges ». Et moi, je peux corriger cela en utilisant une structure focale initiale, donc quelque chose comme tu te trompes, ti sbagli. Alle Maldive sono andati in viaggio di nozze. Donc, c'est une manière d'exprimer une correction. Vous voyez que ça s'est caractérisé par un pic important qui est associé à ce focus correctif, suivi par un aplatissement total de la présupposition. Donc, c'est un type de schéma qui est assez différent et qui est associé aux deux types de configuration. Voilà, donc on identifie toute une série de propriétés complexes de ce type, en particulier toute une série de propriétés d'ordre. Et si le problème de l'explication se pose, comment est-ce qu'on peut ramener les propriétés qu'on observe, en particulier les propriétés d'ordre, à des principes plausibles d'organisation de la faculté du langage, en particulier d'organisation de la syntaxe et des interfaces. Donc ça, il y a ce problème de reconduire la complexité au simple qui a un rôle essentiel dans les discussions récentes. Alors où est-ce qu'on peut chercher pour trouver des explications ultérieures des structures cartographiques très complexes qu'on a vues? Où est-ce qu'on peut chercher? Il y a deux endroits où on peut chercher. Ou bien il se peut que certaines propriétés des structures cartographiques soient liées à certaines exigences des interfaces. Donc, par exemple, l'interface avec les sons exige que les éléments soient linéarisés. Il faut mettre les mots l'un après l'autre. C'est-à-dire que les structures engendrées par la grammaire sont fondamentalement des structures hiérarchiques. Donc il y a un effet de linéarisation qui est fondamental. Et donc il se peut qu'en quelque sorte les exigences du système d'interface du côté des sons impose certaines conditions sur la syntaxe. Même chose pour l'interface avec les systèmes interprétatifs du côté de la forme logique. Donc on peut chercher du côté du principe d'interface, ou bien on peut regarder à l'intérieur de la boîte syntaxique, c'est-à-dire la boîte syntaxique est réglée par certains propres principes. Il y a des principes de localité, par exemple, qui sont opératifs. Donc il se peut que certaines des choses qu'on observe dans la structure cartographique puissent être ramenées à ce genre de propriétés internes à la boîte syntaxique. Voilà. Parlons d'une généralisation concrète. En regardant la structure à topic et à focus, on voit que à travers les langues, il y a beaucoup de langues qui admettent beaucoup de topics, donc toute une série de topics possibles. Tandis que parmi les langues qui utilisent la périphérie gauche pour le focus, on trouve de manière très rigide qu'il y a une seule position de focus. Okay? Donc, multiplicité possible des topics par rapport à l'unicité du focus. Multiplicité de topics, par exemple, en italien, vous pouvez avoir des configurations de ce type, a Marie, al tuo libro, io devi dare al più presto. En français aussi, on peut avoir plusieurs topics, n'est-ce pas? A Marie, ton livre, tu devrais le lui donner si tôt que possible. Et on peut en avoir 3, 4, 5, etc. Mais ici, c'est assez intéressant. La variation est ou bien 0, ou bien 1, ou bien une multiplicité. Hein, vous ne trouvez jamais une langue qui admet 3 topics mais pas 4, ou 4 topics mais pas 5, par exemple. Il n'y a pas de compteur dans la grammaire de langue naturelle de ce type. En tout cas, c'est fréquent la situation où il y a plusieurs topics possibles. Dans d'autres langues, par exemple cette langue africaine, la Bidji, parlée en Côte d'Ivoire, c'est comme en italien, vous avez plusieurs topics, mais chacun est accompagné avec son propre marqueur. Donc vous avez ce petit marqueur Eke qui suit chaque topic. Si vous en avez 3, vous avez 3 fois Eke, etc., etc. Par contre, le focus, comme je disais, est toujours unique. Ça, c'est tout à fait évident dans les langues africaines comme la Bidji, parce que là, il y a un marqueur explicite. On peut avoir un seul marqueur focal dans la périphérie gauche, tandis que vous avez une prolifération de marqueurs de nature topicale. Dans d'autres langues, les choses sont un peu moins évidentes, parce qu'il n'y a pas de marqueur explicite. Donc, il faut jouer un peu avec le contexte, mais on peut imaginer facilement imaginer des contextes, par exemple, où on aimerait corriger un énoncé, non pas sur une seule position, mais sur plusieurs positions. Supposons que quelqu'un dit « Je sais que cette année, Pierre a gagné les Jeux Olympiques. » Vous pourriez être en désaccord parce que ce n'était pas Pierre, mais Jean qui a gagné quelque chose d'important. Et puis, ce qu'il a gagné, c'est le championnat mondial, ce n'est pas les Jeux Olympiques. Néanmoins, vous ne pouvez pas exprimer ces deux corrections en utilisant deux fois une position focale périphérique à gauche. De telles structures sont totalement impossibles. Vous devez scinder ces structures, avoir des phrases individuelles dont chacune a son propre focus périphérique. Voilà, donc, oui, en français, on peut avoir un peu l'impression de ce type de choses, quoique la focalisation s'exprime par une construction particulière qui est la clivée. Mais là aussi, c'est clair que si les topics multiples sont possibles, une double focalisation, une double cleft, une double clivée n'est pas possible. C'est à Jean que c'est son livre que je donnerai. C'est quelque chose qui sonne assez bizarre. Voilà, donc on retrouve ces propriétés langue après langue. Ici, j'ai mis juste un petit échantillon en italien, en anglais, en arménien, en hongrois, en hébreu, en créole jamaïcain. Dans les langues africaines, on trouve systématiquement cette impossibilité d'avoir deux focus en position initiale. Alors, comment traiter cet état de choses? Je crois qu'ici, on peut faire appel à un principe d'interface. Si le mécanisme pour l'interprétation du focus est le suivant, donc la tête focale dit « interprète mon spécificateur, ce qui me précède comme focus, et ce qui me suit comme présupposition », donc quelque chose avec lequel je suis d'accord avec mon interlocuteur, une information que je partage avec mon interlocuteur. Alors, si vous aviez la possibilité d'un focus récursif, comme ici, on aurait un clash, on aurait un problème au niveau interprétatif, parce qu'il y aurait la position focale du focus subordonné, qui devrait être focale, justement, en tant que spécificateur d'une tête focale, mais qui devrait faire partie de la présupposition de la tête focale plus haute. Et quelque chose ne peut pas être en même temps focus et présupposition. Donc il y a un clash interprétatif, il y a un conflit interprétatif qui se crée et qui donne lieu, de manière très systématique à travers les langues, comme on a vu, à l'impossibilité d'une récursion topicale. Par contre, il n'y a pas de problème dans le cas des têtes topicales à cause de la récursion, justement à cause du fait que la notion de commentaire est très faible. N'importe quoi peut être un commentaire. En particulier, un commentaire peut à son tour avoir la forme topique commentaire. Donc rien n'empêche, du point de vue interprétatif, le fait d'avoir une récursion à ce niveau. Bien, ici je voudrais parler encore de quelques propriétés paramétriques. J'ai encore quoi, 5 minutes ou quelque chose comme ça. Ok, 10 minutes, parfait. Voilà, donc comme toujours en syntaxe comparative, en linguistique comparative, il y a des propriétés universelles, des propriétés variables. Hein. Il y a quelqu'un qui met en question l'existence de propriétés universelles, mais je pense que c'est simplement faux. On vient d'en voir une tout à fait solide et claire. Il y a par contre des propriétés variables et il y a beaucoup de structures aussi dans la variation. Et nous devons aussi capturer et exprimer cette structure qui existe à l'intérieur de la variation. Typiquement, on observe dans la variation que les propriétés s'organisent, forment des ensembles cohérents, propriétés variables, je veux dire. Alors prenez cette propriété. Si vous regardez une langue comme l'italien, on a dit le focus périphérique à gauche est unique, mais en effet, cette propriété est très très forte en ce sens que on peut avoir un focus initial au début d'une phrase principale, donc a Gianni ho detto che dovremmo leggere il tuo libro, ou bien au début d'une phrase subordonnée, gli ho detto che il tuo libro, donc focus au début de la phrase subordonnée, dovremmo leggere, non quello di Franco. Mais en italien, vous ne pouvez pas avoir une position focale et au début de la principale et au début de la subordonnée en même temps. Donc l'unicité n'est pas limitée à la clause simple, mais elle se généralise à la phrase complexe. Alors cette propriété n'est pas universelle. Par exemple, en reprenant le Gungbe qu'on a cité avant, cette langue africaine, là, l'unicité est stricte au niveau de la phrase simple, mais il est parfaitement possible d'avoir un focus dans la phrase principale, un focus dans la phrase subordonnée. Par exemple, Sena, marqué comme focus, a entendu que Rémi, marqué comme focus, a pris le couteau, par exemple. Tout à fait possible. Donc là, il y a un élément de variation. Comment peut-on traiter cette variation ? Ben, évidemment, il faut essayer de lier ça à quelque chose d'immédiatement visible et qui différencie les deux langues. Et on trouve ça au niveau des propriétés d'interface avec la forme phonétique, avec l'intonation. Vous vous souvenez qu'en italien, il y a cette structure intonative très spéciale où l'élément focal reçoit une prééminence très forte, suivie d'un aplatissement total de la structure. Alors, ça rend impossible d'avoir dans la même structure, aussi complexe qu'elle soit, un autre focus, parce que vous auriez besoin pour un autre focus d'avoir la même prééminence, mais à l'intérieur d'une zone où tout est aplati. Et donc il y a un conflit entre ces deux exigences au niveau d'interface avec le son. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à Gungbe ? Ben, là, la chose importante est que ces propriétés ne sont pas du tout marquées par des propriétés intonationnelles particulières. C'est uniquement la syntaxe et la morphologie qui indiquent ce qui est focal, ce qui est topical. Vous vous souvenez, topic, focus sont très très différents en italien, aussi en termes de l'intonation. En Gungbe, c'est la même intonation, fondamentalement, sauf que le marqueur change. Vous avez un type de marqueur ou l'autre. Mais comme il n'y a pas une exigence aussi forte, par exemple, d'aplatissement du reste de la structure qu'on a en italien, rien n'empêche d'avoir dans une autre phrase une autre prééminence focale. Voilà, donc je voudrais terminer en regardant une propriété qui différencie l'occurrence possible de topiques multiples et qui différencie deux langues familières, relativement familières, comme l'italien et l'anglais. Donc, en italien, comme on a dit, comme en français, on peut avoir plusieurs topiques. En anglais, il est très difficile d'avoir plus qu'un topic, en particulier si le topic est un syntagme nominal. Un syntagme prépositionnel, il y a quelques différences. Donc, par exemple, prenez une phrase comme « I convince John to rent the car ». Vous avez deux objets, l'objet de « convince » et l'objet de « rent ». Et vous pouvez en topicaliser un, « John, I convince to rent the car ». Vous pouvez topicaliser l'autre, « the car, I convince John to rent ». Mais c'est très difficile d'avoir les deux. Donc, John, the car, I convinced to rent. Très difficile en anglais. Alors, il paraît désirable ici de ramener cette propriété à une différence immédiatement saillante, importante, entre les deux langues, l'italien et l'anglais. Alors, si vous prenez la topicalisation en anglais, Your book, John will give to Mary, ça correspond à cette construction où il y a nécessairement la présence d'un pronom à tonne, d'un pronom clitique, comme on dit dans la phrase. Donc, il tuo libro Gianni lo darà a Maria, ton livre Jean le donnera à Marie. Vous devez nécessairement avoir ce clitique pronominal qui reprend le topic. S'il est absent, la structure est grammaticale. Ça, c'est une différence saillante entre les deux langues. Alors, Guglielmo Cinque a proposé que l'impossibilité de ces structures est due au fait qu'un trou à l'intérieur d'une phrase est interprété comme une variable. Mais un topic en tant que tel n'est pas un bon opérateur, n'a pas les bonnes caractéristiques pour fonctionner comme un bon lieur d'une variable. Et donc la structure est mal formée parce qu'il y a une variable qui n'est pas proprement liée. Il faut le clitique pour médier, pour ainsi dire, pour établir une médiation entre le trou et le topic. Le trou sera lié par le pronom et le pronom aura comme antécédent l'élément disloqué à gauche. Mais qu'est-ce qui se passe en anglais? Pourquoi en anglais on peut dire des choses comme Your book, I will give to Mary? L'idée de Cinque, en reprenant les travaux de Chomsky, est que l'anglais utilise pour cette construction une entité qui est possible dans beaucoup d'autres configurations, qui est un opérateur non prononcé, fondamentalement, un opérateur nul, qu'on trouve dans d'autres constructions, comme les phrases relatives, par exemple, et encore d'autres constructions. Et donc, c'est cet opérateur non prononcé qui, en anglais, lit la variable, et ensuite, il est mis en relation locale avec le topic. Comme toujours, quand on postule une entité invisible, il est utile de regarder dans les langues à côté pour voir si, peut-être, cette entité devient visible. Par exemple, en néerlandais, proche de l'anglais de ce point de vue, il est possible d'avoir des topics avec un opérateur qui est ici prononcé, une sorte de pronom relatif qui est présent dans la structure. Voilà. Alors, on arrive à comprendre maintenant pourquoi, en anglais, on peut typiquement avoir un seul topic. Il y a ce principe de localité dont j'ai parlé avant, un principe de minimalité, qui dit qu'un élément qui bouge ne peut pas traverser un autre élément qui a les mêmes caractéristiques. Donc, « What do you wonder who read ?» c'est une phrase bizarre, parce que vous avez un élément comme « what » qui, en se déplaçant vers la phrase principale, passe à travers, pour ainsi dire, quelque chose qui a des caractéristiques similaires. C'est un autre élément interrogatif. Mais alors, en mettant ensemble l'analyse de Cinque et ce principe de localité, nous avons qu'en anglais, dans une configuration avec deux topics, on aurait nécessairement deux opérateurs nuls, l'un pour chaque topic, et l'un des deux nécessairement traverserait l'autre. Donc on a le même type de violation de localité qu'on observe, par exemple, dans des cas d'extraction de phrases interrogatives indirectes. Donc la différence entre les deux langues peut être ramenée, la différence entre les deux langues sur le nombre de topics possibles peut être ramenée à la théorie de la localité par l'intermédiaire de cette idée, de ce principe de localité, de la minimalité relativisée. Dans le cas de la structure italienne, c'est un peu compliqué, mais vous n'avez pas d'effet de localité parce que chaque trou est lié localement par le clitique. Hein, donc vous avez deux trous en position objet qui sont liés localement par le clitique respectif, par les deux lignes noire. Et ensuite, il y a une relation entre chaque lithique et son propre topique, mais la relation entre un pronom et un topique est semblable à la relation entre un pronom et un antécédent, un type de relation qu'on sait ne respecte pas nécessairement le principe de localité. On peut l'avoir à travers des îlots, par exemple, à travers des structures très complexes, même à travers le discours. Et donc, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas une relation de localité dans ce genre de configuration. Alors, je voudrais conclure en soulignant que donc, le programme cartographique est un programme qui a une large dimension descriptive et qui a montré une capacité heuristique remarquable. C'est-à-dire que c'est un programme qui a engendré beaucoup de travail de description dans plusieurs langues du monde. Et comme on a vu, ce type de programme amène à découvrir certaines propriétés, par exemple des propriétés d'ordre dans les séquences fonctionnelles qui sont associées à la phrase. Ceci pose immédiatement le problème habituel de l'explication, le problème de ramener le complexe à quelque chose qui est simple. Donc comment on peut ramener ces propriétés complexes à des principes plausibles d'organisation de la faculté du langage. Et on a vu comment on peut faire ce genre d'opération, comment on peut établir un lien déductif entre des observations, comme par exemple l'unicité du focus, la variation entre les langues, entre la multiplicité et l'unicité des topiques. On peut ramener donc ces propriétés à des propriétés plausibles comme des principes interprétatifs qui opèrent sur les interfaces et à des propriétés de principes qui opèrent dans la boîte syntaxique, comme par exemple les principes de localité. Donc, de ce point de vue, je pense que les projets cartographiques peuvent fonctionner, à part les résultats descriptifs, peuvent fonctionner comme générateurs de questions, générateurs de problèmes pour l'élaboration théorique et ainsi nourrir la théorie linguistique de données empiriques de nature nouvelle. Et je m'arrêterai sur ces observations. Merci.